Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington.
Bonjour, Le Monde aujourd'hui, édition du mercredi 30 octobre 2019. En direct de Washington, Idrissa Seydoudia
et Anne Albertson.
Nous commençons par les titres.
En Guinée-Bissau, la crise politique se complique avec le refus du Premier ministre limogé par le président de partir.
Au Cameroun, le bilan du glissement de terrain de Bafoussam s'est alourdi.
Les États-Unis ont dénoncé auprès de l'Égypte l'arrestation de la journaliste et blogueuse Esra Abdel Fattah, qualifiant sa détention de scandaleuse.
En Irak, le premier ministre Adel Abdel Mahdi a été lâché par ses principaux partenaires alors que la contestation enfle dans la rue.
Au Liban, le premier ministre Saad Hariri et son gouvernement ont démissionné, déclenchant des scènes de liesse générale au 13e jour d'une révolte populaire inédite.
L'affaire ukrainienne, témoignage à charge d'un officier de l'armée américaine, membre du Conseil de la sécurité nationale, contre le président américain Donald Trump.
Ne manquez pas notre page sport ainsi que la Minute Éco.
Pour l'instant, le journal.
La Guinée-Bissau s'est enfoncée hier encore plus profondément dans la crise. Son premier ministre résiste à son limogeage par un président dont le mandat a expiré. Et le nouveau premier ministre désigné est désavoué par la CEDEAO. Le point avec Bagassi Koura.
Le président José Mario Vaz a démis lundi soir le gouvernement d'Aristide Gomez et nommé mardi Faustino Imbali premier ministre. Défiant le décret présidentiel, M. Gomez a réuni hier le cabinet déchu et a dénoncé des agissements visant à instaurer un désordre total en vue de la présidentielle du 24 novembre. La CEDEAO, qui a chargé en juin le gouvernement de M. Gomez de préparer la présidentielle, a déclaré hier le décret présidentiel illégal. Samedi, les forces de l'ordre ont réprimé une manifestation de l'opposition pour réclamer le report de l'élection. Le président Vaz, dont le mandat de 5 ans s'est achevé le 23 juin, brigue un second mandat. Il a fait état lundi d'une grave crise politique pour justifier le renvoi du gouvernement. M. Vaz a été exclu du PAIGC après avoir congédié du poste de Premier ministre Domingos Simoes Pereira, le chef de ce parti. Il avait encore refusé de le nommer à la tête du gouvernement après les législatives de mars. M. Gomez, qu'il avait finalement accepté de reconduire sur proposition de la CEDEAO, est lui aussi membre du PAIGC.
La Côte d'Ivoire a déposé une demande auprès de la CPI pour s'opposer à la libération sans condition de l'ex-président Laurent Gbagbo. Ce dernier a été acquitté en première instance, mais est en liberté surveillée en Belgique en raison d'un appel de la procureure Fatou Bensouda. Les détails avec Irénée Herman-Ungbo.
L'État ivoirien sollicite l'autorisation de la Chambre d'appel de pouvoir à présenter des observations écrites sur la requête de Laurent Gbagbo visant à sa remise en liberté sans condition, écrivent les avocats Jean-Pierre Mignard et Jean-Paul Benoît, qui demandent à la Cour de rejeter la requête déposée. Dans leur courrier de 7 pages, les deux avocats promettent, au cas où la Cour l'accepte, de transmettre un document plus complet qui viendrait étayer cette demande de rejet de la libération sans condition de Gbagbo. Les avocats de Laurent Gbagbo ont déjà déposé une requête pour demander la remise en liberté totale de leur client. La procureure de la CPI, Fatou Bensouda, a fait appel de l'acquittement prononcé en faveur de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Ils ont été libérés sous condition. Monsieur Gbagbo réside à Bruxelles et Blé Goudé est resté aux Pays-Bas.
Au Cameroun, alourdissement du bilan du glissement de terrain qui a eu lieu dans la nuit de lundi à mardi à Bafoussam, à plus de 290 kilomètres de Yaoundé, dans la région de l'Ouest. De sources officielles ont fait état maintenant de 41 morts. Correspondance d'Emmanuel Jules Tap.
L'espoir de retrouver des survivants du glissement de terrain survenu sur un flanc de colline au quartier Nkwashi, dans la ville de Bafoussam, s'est amoindri. Les équipes de secours, constituées des sapeurs-pompiers, des agents de la Croix-Rouge, des militaires et gendarmes, ont mené des fouilles jusqu'à la tombée de la nuit d'hier, sans trouver de survivants. Mais au sorti du site difficilement accessible, le décompte macabre est passé au-dessus de 40 morts. Des photos d'enfants sortis des décombres et de 4 femmes enceintes, inertes, ont provoqué émoi et consternation. Dans la soirée, le président Paul Biya a adressé aux familles des victimes ses sincères condoléances. Deux membres du gouvernement ont été dépêchés à Bafoussam. L'un d'eux, le ministre de l'Habitat et du Développement Urbain, tient une réunion avec les riverains ce mercredi. Il sera question de prendre des mesures d'aménagement de la zone sinistrée. Le gouvernement envisage clairement le déguerpissement de tous les habitants dont les constructions ne respectent pas le plan d'urbanisme et d'occupation des sols de l'arrondissement de Bafoussam 3e, épicentre de la catastrophe de lundi soir. Yaoundé, Emmanuel Jumtap, VOA Afrique.
Le secrétaire d'État adjoint américain pour le Moyen-Orient, David Schenker, a déclaré hier au Congrès avoir demandé à l'Égypte de libérer la journaliste et blogueuse Esra Abdel Fattah. Il a qualifié son arrestation de scandaleuse et souligné avoir soulevé son cas avec l'ambassadeur égyptien à Washington. Esra Abdel Fattah, 41 ans, est l'une des fondatrices du mouvement du 6 avril en 2008, à l'origine de la révolte de 2011 qui a provoqué la chute du président Hosni Moubarak. Elle a été accusée, entre autres, de collaboration avec une organisation terroriste.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
L'affaire ukrainienne, un officier de l'armée américaine, membre du Conseil de sécurité nationale, a témoigné devant les enquêteurs de la Chambre des représentants qui essaie de déterminer si le président Donald Trump a abusé de ses pouvoirs en demandant à l'Ukraine d'enquêter sur un possible rival démocrate en 2020, l'ancien vice-président Joe Biden et son fils Hunter. Le point avec Eric Manirakidza.
Le lieutenant-colonel Alexander Windman a dit avoir été tellement préoccupé qu'il a alerté ses propres supérieurs. « Je ne pensais pas qu'il était approprié d'exiger qu'un gouvernement enquête sur un citoyen américain. J'étais inquiet des conséquences pour les liens entre les deux pays et la sécurité des États-Unis », a-t-il expliqué. Le lieutenant-colonel Windman a écouté l'appel téléphonique du 25 juillet entre le président Donald Trump et son homologue ukrainien Volodymyr Zelensky. C'est un Américain d'origine ukrainienne et un ancien combattant blessé pendant la guerre en Irak. Avant son témoignage, le président Trump avait écrit sur Twitter n'avoir jamais entendu parler de lui, l'accusant d'être un apôtre du tout sauf Trump, une allusion aux républicains qui lui sont hostiles. Jeudi, la Chambre des représentants, où l'opposition démocrate est majoritaire, votera pour la première fois en séance plénière pour formaliser l'enquête sur une éventuelle procédure de destitution et autoriser des auditions publiques. Une résolution à ce sujet prévoit de permettre au président Trump de se défendre à condition qu'il coopère à l'enquête, selon une copie rendue publique mardi. La Maison-Blanche a immédiatement dénoncé une arnaque.
En Irak, les deux principaux partenaires du Premier ministre Adel Abdel Mahdi se sont entendus dans la nuit de mardi à mercredi pour lui retirer leur soutien alors que la contestation ne cesse d'enfler dans la rue. Il s'agit du leader chiite Muqtada Sadr et du chef des paramilitaires du Hashd al-Shabi au Parlement, Hadi al-Ameri, qui jusqu'ici se lançait des invectives par message interposé. Le Parlement irakien doit se prononcer sur une motion de défiance, a assuré Muqtada Sadr dans un tweet adressé au Premier ministre qu'il clôt par le hashtag « Dégage ».
Et au Liban, le Premier ministre Saad Hariri et son gouvernement ont eux démissionné, déclenchant des scènes de liesse générale au 13e jour d'une révolte populaire contre la classe politique accusée d'avoir laissé sombrer le pays. Des détails avec Yacouba Ouedraogo.
L'annonce télévisée de la démission du Premier ministre Saad Hariri a été accueillie par la joie des manifestants qui l'ont écouté en direct sur plusieurs lieux de rassemblement. Monsieur Hariri a assuré avoir voulu répondre, je cite, à la volonté de nombreux Libanais qui sont descendus dans la rue pour réclamer le changement. Le gouvernement qu'il dirigeait a été formé en janvier après 8 mois de tractations. Pour calmer la colère des Libanais, il avait annoncé le 21 octobre un plan de réforme dont des mesures anticorruption, ce qu'ont rejeté les manifestants qui réclament le départ de l'ensemble de la classe politique jugée incompétente et corrompue. La population souffre de pénuries chroniques d'eau et d'électricité. Cette contestation populaire a explosé le 17 octobre après l'annonce d'une taxe sur les appels via la messagerie WhatsApp. L'annulation de la mesure n'a pas empêché la révolte de gagner l'ensemble du pays.
Fin de ce journal sur VOA Afrique. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui.
La Minute Éco, Nanit Kalani.
Volkswagen importe des voitures électriques à Kigali pour accroître sa part de marché mondial avec l'objectif de produire 600 000 véhicules électriques par an d'ici 2022. L'importation des véhicules électriques au Rwanda, où Volkswagen assemble déjà des voitures, est initialement destinée à tester les infrastructures et les performances des voitures électriques dans le climat de la région. Par ailleurs, le groupe allemand Siemens construira 15 stations de charge à Kigali qui pourront charger jusqu'à 80% de la batterie d'une voiture en une heure, alors qu'il faut environ 11 heures pour recharger une voiture à la maison. Le nouveau plan du gouvernement sud-africain de sauver sa société nationale d'électricité Eskom mettra l'entreprise aux prises avec une forte concurrence et la poussera à s'orienter vers les énergies renouvelables. Eskom sera amenée à réduire ses coûts de production électrique dans ses centrales à charbon qui sont mal conçues, vieilles et mal entretenues et à se tourner vers les fournisseurs d'énergie renouvelable. En plus, les centrales électriques seront organisées en groupe afin de favoriser la concurrence, briser le monopole d'Eskom et offrir des prix compétitifs aux consommateurs. Pour terminer, la Banque centrale du Zimbabwe introduira une nouvelle monnaie composée de billets de 5 dollars et de 2 pièces de dollars zimbabwéens dans les deux prochaines semaines. Elle circulera parallèlement aux billets et pièces obligataires introduits en 2016 en remplacement du dollar américain que le pays utilisait à l'époque à la place de sa propre monnaie.
Les sports à présent avec Yakuba Ouedraogo. Yakuba, bonjour.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
L'Afrique du Sud accueillera le mondial de rugby à 7 en 2022.
Oui, la prochaine Coupe du monde de rugby à 7 aura lieu au Cap, une première sur le continent africain. La ville côtière sud-africaine organisera en septembre 2022 cet événement de 3 jours au Cape Town Stadium. Le rugby à 7, plus spectaculaire et rapide que la version à 15, a fait son entrée au programme des Jeux Olympiques en 2016 à Rio et sera à nouveau au rendez-vous à Tokyo en 2020.
La Bulgarie sanctionné pour cause de racisme dans le football.
Un match à huis clos, un deuxième avec sursis et une amende de 85 000 euros. Ce sont là les sanctions infligées par l'UEFA à la Bulgarie après les incidents racistes face à l'Angleterre. La fédération anglaise qui prend acte de cette décision a souligné, je cite, qu'un défi énorme demeure autour du racisme et de la discrimination dans la société. Le 14 octobre, le match entre Bulgares et Anglais a dû être interrompu à 2 reprises à cause des saluts nazis et des cris de singe à l'adresse du défenseur Tyrone Mings et des attaquants Marcus Rashford et Raheem Sterling.
Les championnes du monde américaines ont un nouveau sélectionneur.
Vlatko Andonovski a été nommé sélectionneur de l'équipe féminine de football en remplacement de Jill Ellis, qui a conduit les Américaines à un double titre de championne du monde 2015 et 2019. Andonovski, 43 ans, était à la tête de la formation de Megan Rapinoe, le règne FC, en 2018 et 2019. Il a remporté 2 titres de champion des États-Unis chez les dames avec le FC Kansas City, qu'il a entraîné entre 2013 et 2017. Il va effectuer sa première sortie avec la Team USA face à la Suède et contre le Costa Rica en match amical de préparation aux qualifications olympiques pour les Jeux Tokyo 2020.
Toujours ici aux États-Unis, la NCAA pour la rémunération des athlètes.
L'organe central du sport universitaire américain a entériné la possibilité pour les athlètes d'être rémunérés en échange de l'utilisation de leur nom et de leur image. Une révolution après des décennies d'opposition. Le football américain et le basket universitaire génèrent des milliards de dollars de revenus annuels, une manne dont les athlètes ne perçoivent rien jusqu'ici. Fin septembre, le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, a ratifié un texte autorisant la rémunération des athlètes universitaires dans son État à compter de 2023. Hier, la NCAA, National Collegiate Athletic Association, a voté à l'unanimité pour permettre aux athlètes étudiants de toucher des droits d'image et de signer des contrats publicitaires à partir de janvier 2021. Et justement, basketball professionnel, pour finir avec vous Idrissa, il y avait 3 matchs au programme de la NBA la nuit dernière.
Oui, et victoire de Miami sur Atlanta, 112 à 97. Défaite de Denver face à Dallas, 109 à 106. Et les Lakers de LeBron James et d'Anthony Davis remportent leur 3e victoire consécutive de la saison en battant Memphis, 120 à 91.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com. À tout de suite. Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
De nouveau avec vous, Idrissa Sedoudia, nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Nous vous le disions en première partie, la Guinée-Bissau s'est enfoncée hier encore plus profondément dans la crise. Son premier ministre Aristide Gomes résiste à son limogeage par le président José Mario Vaz, dont le mandat a expiré, et le nouveau premier ministre nommé mardi, Faustino Imbali, est désavoué par la CEDEAO. Cette situation jette le doute sur la tenue de la présidentielle du 24 novembre dans un pays où la crise politique au sommet de l'État ne date pas d'aujourd'hui. Que se passe-t-il au juste ? Idriss Fall a joint notre confrère sénégalais Mahmoud Cissé, spécialiste de la Guinée-Bissau.
Disons que à un mois des élections présidentielles, le président a décidé d'air chef de dissoudre le gouvernement, ce qui est déjà anormal. Le président, son mandat est fini depuis le 23 juin. Une crise est posée et la CEDEAO a tranché en disant ceci, que le président est là pour le moment jusqu'à la prochaine élection présidentielle et que le premier ministre Aristide Gomes assure les affaires courantes jusqu'à l'élection présidentielle. Samedi passé, il y a eu une manifestation non autorisée par les partis politiques qui sont le PRS, le Parti pour la Rénovation Sociale, le Madame G15 et leurs alliés. Il y a eu, d'après nos sources, mort d'homme. Et le président a décidé, voilà, de dissoudre le gouvernement.
Les élections, elles auront lieu ou bien elles n'auront pas lieu? Parce que tous les deux, le premier ministre et le président, sont candidats.
Pour vous rectifier, donc, le premier ministre n'est pas candidat. Le premier ministre est du parti du PAIGC. Celui qui est candidat, c'est Domingo Simões Pereira, qui est le président du PAIGC. Le premier ministre a bien réagi aujourd'hui pour dire qu'il maintient le calendrier de la CEDEAO, c'est-à-dire début de la campagne ce samedi 2 novembre et le vote est prévu pour le 24. D'ailleurs, c'est ça le calendrier de la CEDEAO et du groupe que l'on appelle les P5, c'est-à-dire la CEDEAO, la CEE, l'Union africaine, etc. etc. Donc, on maintient que le calendrier aura bel et bien lieu et qu'il y aura élection.
Le président, il est candidat en indépendant. Il n'est plus candidat du PAIGC.
Non, il n'est plus candidat du PAIGC. C'est un candidat indépendant. Le candidat du PAIGC s'appelle Domingo Simões Pereira.
Mais comment se fait-il que la Guinée-Bissau, depuis plus de 4 ans, n'arrive pas à avoir un gouvernement stable?
Parce que, tout simplement, l'actuel président ne veut pas respecter les textes de la Constitution. La Constitution est au-dessus de tout le monde. La Constitution dit que le parti qui a gagné les élections législatives doit désigner son candidat. Ils ont désigné leur candidat, en l'occurrence Domingo Simões Pereira. Le président n'en veut pas. La CEDEAO a coupé la poire en deux pour dire, bon, ok, vous n'en voulez pas. Maintenant, on va reconduire Aristide Gomes, premier ministre. Vous restez à votre poste jusqu'à la fin des prochaines élections. Il ne respecte pas ce que la CEDEAO lui dit et le groupe qu'on appelle le P5.
C'était Mahmoud Cissé, journaliste sénégalais, spécialiste de la Guinée-Bissau.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
En Côte d'Ivoire, inquiétude également quant à l'élection présidentielle qui est prévue en 2020. Le pays vient en effet de déposer une demande auprès de la CPI s'opposant à la libération sans condition de l'ex-président Laurent Gbagbo. Une décision qui semble de nouveau diviser la Côte d'Ivoire, engagée dans un processus de réconciliation nationale. Irénée Herman Ungbo a discuté de ces développements avec le professeur Nyaka Lagoke, maître assistant à Lincoln University en Pennsylvanie.
J'étais à la fois surpris et pas du tout surpris.
surpris que le régime de Alassane Draman Ouattara ait décidé de s'exposer de cette façon. Et je ne suis pas surpris parce que c'est des choses qu'on savait depuis le début.
Pourquoi, à votre avis, l'État ivoirien s'oppose-t-il à la libération sans condition de M. Gbagbo?
Oh, c'est assez clair parce que M. Alassane Draman Ouattara a pris le pouvoir en Côte d'Ivoire au nom de la Charte du Nord après avoir dénoncé être victime de l'ivoirité et qu'il a l'intention de perpétuer son régime ou son système à la tête de la Côte d'Ivoire. Gbagbo l'aurait de retour sur la scène politique, cela va déranger ses plans et donc c'est aussi simple que cela, donc il faut l'écarter.
Mais le gouvernement, les autorités d'Abidjan parlent de réconciliation et il y a plusieurs initiatives qui sont en cours dans le pays. Pourquoi avoir peur d'un retour de Gbagbo?
Non, mais M. Alassane Draman Ouattara, depuis bientôt 10 ans qu'il est au pouvoir, n'a pas envie d'une véritable réconciliation. M. Ouattara ne peut pas diriger dans un environnement démocratique et pour ceux qui ne le savent pas, M. Alassane Draman Ouattara est celui qui a mené la guerre en Côte d'Ivoire pour imposer sa candidature. Il est celui qui a utilisé la violence et la guerre en 2011 pour qu'il devienne le président effectif de la Côte d'Ivoire.
Non, mais c'est vous qui l'affirmez que c'est lui qui a amené la guerre en Côte d'Ivoire. Ça n'a pas été démontré.
Oh non, bien sûr. Bon, même aujourd'hui, Soro Guillaume, qui était son homme de main aujourd'hui, ça fait plusieurs déclarations que monsieur, ils ont fait cela au nom de M. Alassane Draman Ouattara. Ce n'est même pas que des polichinelles, c'est des faits. Ça est partout que la responsabilité de M. Ouattara a été établie dans les deux incidents dont je viens de parler. Donc pour moi, quand on parle de la Côte d'Ivoire de demain, où on doit être réconcilié, on doit être d'accord sur les valeurs communes, et il faudra aussi que des gens aient le courage de dénoncer les travers des uns et des autres. Autant on situe la responsabilité historique et politique de tous les acteurs politiques en Côte d'Ivoire, autant aujourd'hui, si on doit penser à la réconciliation, la responsabilité première incombe au premier magistrat de la République de Côte d'Ivoire, qui est M. Alassane Draman Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire.
Qu'auriez-vous espéré du président Alassane Ouattara pour confirmer un réel processus de réconciliation à Abidjan?
Sous la pression interne en Côte d'Ivoire et la pression des puissances internationales, M. Alassane Draman Ouattara a finalement décidé de libérer Mme Gbagbo et près de 800 prisonniers politiques en Côte d'Ivoire. Ce qu'on aurait souhaité, c'est qu'il continue sur cette lancée. Mais qu'est-ce qu'on constate? Tous ceux qui ont des points de vue divergents en Côte d'Ivoire, d'une façon ou d'une autre, ils commencent à avoir des problèmes avec l'appareil judiciaire du M. Ouattara. Et la dernière chose pour terminer, ce qu'ils ont fait aujourd'hui avec la demande de non-mise en liberté de Gbagbo Laurent, ce n'est pas que ça. Ils ont fait un autre procès de la casse de la BCAO à Abidjan. Ils ont confirmé les 20 ans qu'on avait donné à Gbagbo. Ils ont ouvert aussi un autre procès contre Blégoudé. Bon, vraiment, c'est une aberration. Et là, nous sommes inquiets par rapport aux élections de 2020.
C'était le professeur Nyaka Lagoke, maître assistant à Lincoln University en Pennsylvanie.
Abdourahmane Dia avec vous. Cette semaine, dans Washington Forum, les groupes armés continuent de mener des attaques meurtrières dans le centre du Mali et le nord du Burkina Faso. Ces terroristes opèrent à travers la région du Sahel qui échappe de plus en plus aux armées nationales et autres missions présentes. Qu'est-ce qui explique la détérioration de la situation sécuritaire dans le Sahel? La décision de l'UMOA d'envoyer des troupes dans les pays les plus touchés aidera-t-elle à renverser les rapports de force sur le terrain? Nous allons évoquer toutes ces questions avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique. Vous pouvez réagir sur notre page Facebook.
En République centrafricaine, des milliers de personnes ont perdu leur maison à la suite de pluies diluviennes. Ces inondations inédites en 20 ans sont dues à la conjonction de pluies exceptionnelles et incessantes depuis une semaine et la crue de l'Oubangui et de ses affluents. Au moins 28 000 personnes se retrouvent sans abri à Bangui et dans d'autres villes du pays. Blanche Sanou.
Des maisons détruites, des sans-abri, c'est le constat fait par Pasek Ibarra, l'un des coordinateurs des camps de fortune mis en place pour les habitants déplacés par les inondations à Bangui.
Approximativement entre les deux sites, on est à presque 1200 qui sont là. Vous voyez, on est sous la pluie, il n'y a pas de bâche. Et encore beaucoup plus de risques parce que les maisons qui ne sont pas écoulées sont en train d'être écoulées aussi. Donc le risque continue et il pleut.
Des préoccupations partagées par les personnes déplacées comme Faf Pilingbi et Roch Lionel qui attendent le soutien du gouvernement.
C'est vraiment triste, c'est catastrophique. L'eau a inondé nos maisons et détruit toutes nos affaires. Les enfants ne peuvent pas aller à l'école et notre situation alimentaire est difficile. Il fait froid et nous n'avons pas d'abri, pas même de plastique pour nous protéger. Le gouvernement doit prendre soin de nous.
Nous avons vraiment besoin de l'aide. Nous sommes, il y a des maisons qui sont détruites. Les familles, les parents sont hors de leur maison. C'est un peu difficile lorsque tu quittes chez toi, ce que tu n'as pas prévu, aller dormir ailleurs, ce que tu as conçu pendant des années, hein, au bout de deux jours, ça s'écroule. C'est pas facile. C'est avec beaucoup de chagrin que j'exprime ces mots-là.
Le premier ministre Firmin Grébada a déclaré que les inondations étaient une catastrophe nationale et il a appelé à une aide nationale et internationale.
Les premières évaluations nous donnent un chiffre de 1500 ménages pour 8000 personnes affectées rien que pour la ville de Bangui et plus de 4000 ménages pour plus de 20 000 personnes affectées pour les villes de province. Compte tenu de l'ampleur du sinistre et du contexte particulièrement difficile que connaît le pays, le gouvernement, par ma voix, sous l'autorité du président de la République, chef de l'État, déclare le pays en situation de catastrophe et lance un appel à solidarité nationale et internationale.
La République centrafricaine est au sommet d'un indice de vulnérabilité au changement climatique et figure parmi les pays les plus menacés par les inondations. Ce même indice, publié en 2018 par les Nations Unies, montre également une croissance démographique rapide et des infrastructures médiocres exposant de nombreuses grandes villes africaines à un risque extrême de menace posée par le changement climatique. La RDC et le Libéria sont d'autres pays exposés à de telles menaces.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
À Maïdougouri, au Nigeria, faire brûler du kadji, un encens populaire, est une tradition chérie par les locaux. Le kadji est fabriqué à partir de recettes transmises de génération en génération. Il est utilisé lors d'importantes cérémonies telles que les mariages, les baptêmes et les décès pour chasser les mauvais esprits. Avec les progrès de la technologie et des médias sociaux, le marché de l'encens se développe de plus en plus. Chika Odwa s'est rendu à Maïdougouri pour constater ce renouveau du kadji. Son reportage, repris ici par Lionel Gahima.
Fatima Goni se promène dans le plus grand marché de Maïdougouri à la recherche des produits pour fabriquer de l'encens appelé kadji. Elle achète des huiles parfumées et du bois aromatique.
J'ai commencé à en vendre en petite quantité aux habitants de Maïdougouri.
L'usage de l'encens fait partie de l'identité kanouri. Les locaux s'adonnent à ce rituel depuis au moins un millénaire. Boukar Chabal, de l'association culturelle de Kanouri.
Kadji.
Le kadji est un aspect important de l'existence de Kanouri. Si les gens viennent chez vous et que vous ne faites pas brûler du kadji, ils vont se dire, qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Lorsqu'une femme accouche, la première chose que l'on fait après le bain, c'est de ramener du kadji.
Il y a plus de 800 boutiques de kadji à Maïdougouri et cet encens convoité se ferait un chemin sur le nouveau marché à travers les réseaux sociaux. Fatima Mustafa vend du kadji sur les réseaux sociaux. Elle explique que cela lui permet de toucher une clientèle plus jeune dans des pays comme le Tchad, le Niger et même la Grande-Bretagne.
J'ai commencé à vendre sur les réseaux sociaux car c'est la seule façon d'avoir accès à beaucoup de personnes. On peut voir les différents produits sur Instagram et lorsque je poste les photos, j'utilise les hashtags pour cibler les gens.
Le kadji est accessible à tous les porte-monnaies. Les prix vont de 50 centimes à 150 dollars. Mais les professionnels de la santé avertissent qu'une exposition prolongée à la fumée de l'encens peut avoir des effets nocifs. Comme avec toutes les bonnes choses, il faut donc savoir user du kadji avec parcimonie.
Salut les amis, ici Roger Montou de VOA Afrique. Téléchargez et partagez l'application RM Show VOA. Vous allez pouvoir nous suivre en direct sans problème. Vous serez aussi en mesure de suivre des émissions manquées et nous appeler et participer en live en direct sur notre application RM Show VOA. Vous pouvez trouver l'application dans votre Google Play. Cherchez tout simplement RM Show VOA. Merci infiniment de rester connecté avec RM Show sur l'application Google Play RM Show VOA. Téléchargez et partagez l'application pour rester scotché à nous suivre chaque jour entre 20h et 21h, temps universel. Rappelez-vous que RM Show, c'est chaque jour à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Et je vous dis comme d'hab, God bless, peace Africa.
monde aujourd'hui, VOA Afrique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci de l'avoir suivi. À la console, Kelvin Fowler. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de VOA Afrique.